Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La Sherlock Holmes manie. Une manie, plus que ça, une religion, avec ses intégristes et ses réformistes, avec celles et ceux qui pensent qu'il est mort, en 1954, dans le Sussex, ça, ce sont les Anglais. Qu'il est toujours vivant, ayant découvert au Tibet le secret, sinon de l'immortalité, du moins de la longévité. Ça, ce sont les Américains. Vivant ou non, Sherlock Holmes est un mythe. Et c'est bien ce qui intéressait Jacques Meunier et Anne-Pascale Desvignes le 18 novembre 1993 sur France Culture. Nuit magnétique, mythe où es-tu, mythe que fais-tu, avec René Réhouvin, Claude Klotz, Jacques Sellard, Jean-Pierre Cagnat, François Rivière, Roland Topor, Thierry Saint-Johannis, Aurélien et sa mère, Michel Lys et Marie Mercier.
Nuit magnétique, bonsoir. Les mythes sont malins. Ils se faufilent entre les livres et entre les époques. Le bouche à oreille les porte. Ils habitent la logosphère et les hommes sont leur résidence secondaire. Ils parlent de tout, car ils sont le miroir narratif de ceux qui les écoutent. Personne ne connaît le secret de fabrication des mythes. Cela dépasse l'entendement et pour expliquer leur origine, il faudrait avoir recours à un autre mythe. L'idéal serait d'assister à la naissance d'un mythe, de prendre le mythe au berceau, de le regarder grandir et se multiplier, d'observer sa métamorphose. Sherlock Holmes n'est-il pas ce personnage qui se tient à mi-chemin entre le roman et le mythe?
Ah ben voilà. La société du tra-la-la-la-la lira-lira-lé. Ah, s'il y a comme c'était, ce qu'il y a là, le Cercle Rouge à Washington, les aristocrates célibataires à Saint-Louis, Club des Violents de Crémone en Virginie, la Société des Mendiants Amateurs à Détroit, les Hommes Dansants à Providence, les Six Napoléon à Baltimore, la Société des Patients Négligés du Dr Watson, le tralala lira, les... Parce que c'est un truc où il chantonne à un moment donné, il fait tralala, et donc c'est la Société des Tralala, les HW, réunissant les personnes aux initiales identiques à celles de Holmes et de Watson, les fragiles moyens philosophiques de Sherlock Holmes, c'est une citation, à Frankfurt, USA, le club des fausses déductions de Dr. Watson, les plongeurs de la falaise de Reichenbach, parce que c'est là qu'ils se tuent avec les autres en tombant, les descendants de la grand-mère française de Holmes, la société des femmes qui attendent un mari holmésien, il y a tout ce qu'il faut là.
Bonjour.
Voilà. Merci beaucoup. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, madame.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Je cherche... j'ai vu que vous aviez un autocollant Sherlock Holmes sur la porte. Alors, je cherche une pipe style Sherlock Holmes. Vous en
oui.
avez ?
Alors, ça, il y a plusieurs séries. Il y a la Sherlock Holmes qui est faite par Peterson. Il y a une série avec quantité de modèles que je vais vous montrer. Il y a aussi la Calbas, qui est une pipe qui a été fumée beaucoup par Sherlock Holmes. C'est une courge des Indes avec un pot écume. Et elle se fait aussi en plus petit, tout en bruyère, dans la même forme. Je vais vous les montrer, si vous
voulez. Merci, merci.
No! Ainsi, à travers Sir Hugo, un mauvais sort s'abattit sur les Baskerville, sous la forme d'un chien surgi de l'enfer, pour attirer le malheur sur toute la famille des Baskerville. Aussi, prenez garde. Ne vous aventurez pas sur la langue.
Bon, René Réhouvin, on va faire un petit portrait comme ça, un petit portrait robot de Sherlock Holmes.
Robot est tout à fait le terme qui convient, en ce sens qu'on a souvent dit que Sherlock Holmes n'était qu'un robot et qu'une machine à raisonner. Mais enfin, je crois que Conan Doyle, justement, pour éviter cette systématisation, l'a lesté de quelques attributs pittoresques. Le premier, c'est la pipe. Un robot ne fume pas, donc si Sherlock Holmes fume, c'est que ça n'est pas un robot. Alors, il a la pipe, il en a même plusieurs, il a une pipe en merisier, une pipe en bruyère, chacune ayant un rôle tout à fait spécifique. Quand il pense, c'est le merisier. Et quand il doit prendre la traque ou prendre l'affût d'un criminel, à ce moment-là, c'est la pipe de bruyère et il court sur les landes. Donc ça, c'est déjà l'un des attributs de Sherlock Holmes qui dessine sa silhouette. Il y a ensuite les attributs vestimentaires. Donc, la casquette à double visière et la houppelande, qui sont d'ailleurs pas dues à l'imagination de Conan Doyle, mais à celle du comédien Gillette, qui, le premier sur la scène, a imaginé de s'habiller de cette façon-là. Il y a enfin le violon. Le violon qui est sa passion, on dit toujours qu'il joue sur son violon des airs de Mendelssohn, en général des lieds, des airs qui portent à la mélancolie et à la réflexion. Et puisqu'on en est à la réflexion, parlons aussi de la cocaïne, qui, disait-il, stimule ses facultés de déduction et sur laquelle il se rabat quand l'activité criminelle est en sommeil. Alors, est-ce qu'il faut souhaiter que l'activité criminelle connaisse une recrudescence, ou est-ce qu'au contraire, il faut souhaiter qu'elle s'apaise? Mais alors, à ce moment-là, c'est le détective qui se drogue. Et il se drogue avec une cocaïne, une solution à 7%, un titre qui a été repris par Nicolas Meyer, d'ailleurs. La solution à 7%, devenue Sherlock Holmes attaque l'Orient Express chez les Français, je ne sais pas pourquoi. Enfin, ça me paraît beaucoup moins évident. Encore, Conan Doyle ait laissé entendre que dans le dos de Sherlock Holmes, Watson ramenait la solution à 5%.
Et pour ce qui est du violon et de la cocaïne?
Alors la cocaïne, évidemment, ça c'est une question qu'on pose toujours maintenant, parce que maintenant les temps sont suspicieux par rapport à la drogue. Mais à cette époque-là, c'était d'une part tous les gens qui revenaient d'Orient toute la société, la haute société allait s'encanailler dans les bars, dans les trucs louches pour fumer de l'opium. Toute la classe, les classes sociales, les basses classes sociales buvaient de l'odanum toute la journée. C'est un truc qui n'existe plus, mais ils achetaient de l'odanum chez les pharmaciens. Et comme on achète de la limonade, on en disait ça de donner aux bébés. Il n'y avait pas du tout aux drogues, cette approche qu'on a maintenant. Tous les médecins avaient peut-être une tendance à prendre la cocaïne ou de la morphine. Pas tous, mais c'était pas une chose extraordinaire. C'était pas interdit, hein. Ça a été interdit après 1910 ou je sais pas quelle date, la vente de morphine ou de cocaïne.
Je trouve que Sherlock Holmes est un personnage infiniment sympathique, trahi par le cinéma, parce que Sir Basil Rathbone, qui l'avait interprété, qui est un acteur très bien, physique assez Sherlock Holmes, mais donnait une image de lui très très conformiste. Or, Sherlock Holmes est le moins conformiste et le plus anticonformiste des détectives, je trouve. Parce que, bon, il se drogue, il est désordonné. Il range son tabac dans une pantoufle pour l'époque. C'est l'artiste, il joue du violon, toujours de la même façon, toujours sur une même note. Enfin, il joue très bien, mais quand il s'ennuie, il joue toujours la même note. C'est lancinant, c'est exaspérant.
Il est, Sherlock Holmes est décrit par Conan Doyle comme quelqu'un qui a un grand nez recourbé, des pommettes hautes. En fait, il ressemble tout à fait normalement à un Sioux, enfin un Indien. Donc, en France, je vois pas. À une époque, j'avais demandé à Jacques Chazot, parce que je voulais prendre des. Jacques Chazot, qui est mort il y a quelques temps, je voulais me servir un peu de sa tête pour faire un livre que je veux faire. Ça me paraît. Il m'avait dit d'ailleurs qu'on lui avait proposé déjà de faire Sherlock Holmes. C'est vrai qu'à l'étranger, il y a eu des gens qui avaient ce genre de physique un peu osseux, un peu avec un nez comme ça. Les plus connus, Christopher Lee a fait ça, et puis deux ou trois que je ne vous rappellerai pas, puisque sont tellement connus. Mais pour ce qui est des dessinateurs, alors il y a eu des choses bizarres, parce qu'un des premiers Sherlock Holmes qui était dessiné a été dessiné avec la barbe. Alors c'était le père de Conan Doyle, qui était un dessinateur célèbre en Angleterre, qui lui avait dessiné ça. Mais c'était à sa propre image. En fait, il s'était dessiné en Sherlock Holmes. Alors ça n'allait pas du tout, en Sherlock Holmes avec la barbe, c'était ridicule. Et donc après, celui qui a dessiné le premier et qui a pérennisé un peu, c'était Gillette, William Gillette, un dessinateur anglais, mais en fait qui n'a pas dessiné Sherlock Holmes comme le voulait Conan Doyle. Il n'avait pas la tête aussi marquée que ça. Mais alors, à noter donc évidemment que lui, il ne le dessinait pas avec avec sa casquette à double visière, ni avec sa pipe, qui sont bien entendu des choses non canoniques, puisque la casquette à double visière, il la met deux, trois fois, c'est pour aller à la campagne, et la pipe, on ne voit jamais fumer avec une pipe recourbée comme ça, qui est une espèce de pipe calebasse. Il y a un club d'ailleurs qui s'appelle les Non-Canonical Calabashes. Et il est habillé comme un gentleman de cette époque-là. C'est-à-dire, il a haute forme. William Gillette l'a très bien dessiné comme ça. On le voit, donc c'est pas très caractéristique. On a un autre qui s'appelle Steele, qui est un Américain, qui a dessiné. Lui a fait des choses beaucoup plus vigoureuses et un peu plus proche de ce qui a été après l'image classique de Sherlock Holmes. Des choses qui ont été reprises au cinéma et au théâtre. Voilà, en gros, alors après, maintenant, il a été fait par des dizaines et des milliers de gens, mais c'est jamais très original, c'est toujours un peu copié sur justement les archétypes, l'archétype qui s'est petit à petit dégagé.
Je dirais même plus, comme diraient les Dupont, ça ne m'a pas passé. Je suis toujours assez ennemi du soleil et j'aime bien les climats brumeux, les pluies, les nuages.
Mais Sherlock Holmes, dans sa première version, il n'était pas du tout comme on l'imagine aujourd'hui, comme les dessinateurs le représentent. Il était laid, paraît-il.
Eh bien, à l'origine, effectivement, tel que le décrit Conan Doyle, on voit quelqu'un de très anguleux. En fait, l'acteur Basil Rathbone, qui n'était pas spécialement beau, l'a incarné à la perfection. Quelqu'un de très anguleux et même de pas très sympathique, à la limite. Par la suite, lorsque le succès est venu, il y a eu d'abord l'interprétation de Gillette, l'acteur de théâtre, qui a inventé, lui, la casquette à rayon et la Macfarlane, alors que dans l'esprit de Conan Doyle et dans les premières illustrations du Strand, Sherlock Holmes se promenait avec redingote et chapeau de forme. Et il est devenu beau, peu par peu, parce que le public a besoin d'idoles, qu'une idole, en principe, doit avoir une apparence tout à fait plaisante.
Claude Klotz, vous êtes un cinéphile. Souvent, dans vos livres, on voit quelqu'un qui sort du cinéma et qui, pendant un quart d'heure, se prend pour Bogart. Hein. Est-ce que c'est alors voilà, racontez-moi un petit peu tous les personnages qui vous ont habité comme ça pendant une seconde ou pendant deux jours, quoi.
Oui, ça c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon existence parce que je crois d'abord il y a une chose depuis toujours, autant plus loin que je me souvienne, je ne me suis pas physiquement supporté. Il y a déjà ça. Bon, je sais que ça porte un nom presque de maladie mentale, c'est comme ça. Bon, mais je me suis pas, je ne m'aime pas et étant enfant, c'était pareil. Et j'ai eu pour lutter contre cette cet état de fait, j'ai eu le cinéma. Comme c'était pas une thérapie bien solide, mais enfin disons ça m'a permis quand même quelquefois, plus que la littérature, je ne me suis jamais identifié à quelque héros que ce soit, mais sortant d'un film, Gary Cooper, Bogart, etc., enfin les grands, j'avais cette impression stupide, qui jaillissait en moi comme ça, que si je me tenais un peu comme eux, que si je fumais comme eux, que si j'achetais peut-être la cravate ou l'imperméable comme eux, j'allais peut-être être un peu moins moi. Voilà, c'est ça. C'était ça le but. Un de mes copains disait finalement, j'ai jamais fait de gymnastique dans mon adolescence, mais je me suis tenu toujours très droit parce que j'imitais Henry Fonda. Et moi, c'est un peu ça. Et je sais que j'ai fumé assez jeune parce que je savais tenir la cigarette comme Bogart, et tenant la cigarette comme Bogart, j'étais quand même un petit peu Bogart, donc j'étais un petit peu moins moi. Cooper, c'est plus difficile parce qu'il y avait quand même une question de taille, etc. Mais je crois que le succès, enfin, c'est très mitigé, mais le succès de la star, c'est d'avoir un petit élément, semblable à tous les autres, presque un tic à la limite, une façon de remonter son pantalon, de grimacer, de se gratter l'oreille, etc. Tous avaient un petit truc comme ça qui permettait à des lascars comme moi de s'identifier apparemment facilement. Bon, mais ils étaient quand même tellement superbes qu'ils étaient très au-dessus, quoi. Bon, c'est la star, ça veut dire quand même l'étoile. L'étoile, c'est en haut. Donc, on n'y arrivait jamais. Bien sûr, il faut jamais y arriver. L'erreur, c'est de croire qu'on peut être complètement quelqu'un. Bon.
Est-ce qu'il y a une véritable demande pour ces pipes ?
Ah oui, c'est-à-dire que c'est très à la mode depuis deux ans. C'est ce qui a fait sortir toute une série de pipes Sherlock Holmes de formes différentes. C'est-à-dire que tous les ans, ils ont fait du reste un porte-pipe, tous les ans, ils sortaient deux pipes à peu près. Et le porte-pipe contient et fait pour tenir toutes ces pipes Sherlock Holmes. Alors la première qui est sortie, c'est l'original, vous voyez, que voilà. Ensuite, vous voyez, vous avez toutes sortes de pipes, comme la Baskerville, comme la Squeer, comme... Alors, les noms, c'est toujours des pipes qui ont été fumées, des formes qui ont été fumées par Sherlock Holmes, mais chaque forme porte un nom, comme la Squeer, la Professor, l'original. Et voilà la Watson. La Watson, la voilà. Très avec bien. Des viroles en argent, très belle bruyère, une très belle pipe. Alors ça, ce sont des tirages limités. C'est-à-dire que peut-être dans 6 mois, 1 an, ils arrêteront de faire ces formes-là. Mais là, ça continue encore.
Vous avez une élégance anglaise. J'ai toujours remarqué ça. J'accède à une élégance anglaise. Et je suis sûr, alors que Sherlock Holmes est un mythe qui vous intéresse, ne serait-ce que du point de vue vestimentaire.
Oui, tout de même, c'est un mythe nourrissant, je veux dire. Il y a vraiment quelque chose dans le Sherlock Holmes, ce gars qui se drogue, qui se pique, hein, notoirement, qui n'est ni impuissant, ni homosexuel, mais qui n'est pas amateur de femmes, qui est un chaste, un genre de jésuite. Sherlock Holmes, c'est l'Ignace de Loyola du crime. Hein, c'est l'ascèse du crime. Une seule chose d'intérêt, c'est qui a fait quoi, pourquoi, comment. Et donc, c'est en même temps Édipe est le sphinx, hein, il est, le crime est le sphinx qui lui pose des questions, qui dit mais comment est-il possible que, et Sherlock Holmes est Édipe, il dit bah voilà c'est comme ça, et il a comme tous les grands, dans tous les grands mythes, il a son famoulous, son petit bonhomme preneur de notes qui est l'honorable docteur Watson, élémentaire mon cher Watson, avec... Conan Doyle est un très grand écrivain, hein, avec une forte autodérision de Conan Doyle sur Sherlock Holmes lui-même, en disant, bon, bah, vous allez voir, et c'est élémentaire, etc. Et puis, il y a tout de même il s'est passé quelque chose qui a, je crois, perturbé le fonctionnement du mythe chez Conan Doyle, hein, du mythe de Sherlock Holmes, qui est que, à un moment donné, après 200 ou 300 aventures, et poursuivi par des ennemis implacables, par les maîtres du crime, puisque bien sûr, le complot du crime général, enfin la mafia secrète, l'organisation du meurtre fonctionne à plein dans le système Conan Doyle, Sherlock Holmes, et dans ce système, la mafia du crime finit par avoir raison de Sherlock Holmes, le précipite dans un ravin, gouffre, etc. C'est la fin de Sherlock Holmes, et à ce moment-là, toute l'Angleterre a écrit, a protesté, a dit non, 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 c'est pas possible. D'où le dernier volume de Conan Doyle, qui est le retour de Sherlock Holmes, donc la résurrection de Sherlock Holmes, en se souvenant que la même aventure était arrivée 40 ou 50 ans avant à Ponson du Terrail français, avec les aventures de Rocambole, et à Eugène Sue également, avec le feuilleton, le système du feuilleton, parce que c'est ça, avec le feuilleton, et les lecteurs écrivant « Non, 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 Rocambole ne doit pas mourir !» Alors, Ponchon du Terrail, le ressuscité, en disant « Non, il s'est accroché aux branches à la dernière minute. » Là, il y a tout de même aussi un rappel profond du mythe du sauveur qui ne peut pas mourir. Donc, il est, en effet, il tombe au fond du précipice, c'est fini. Mais non, c'était une ruse. Il va ressortir ressuscité pour punir définitivement le mal. Ça fait un bel ensemble.
Don't you think I'm aware you've been diluting it behind my back? As a doctor, as well as your friend, I strongly disapprove of this insidious habit of yours.
My dear friend, as well as my dear doctor, I only resort to narcotics when I'm suffering from acute boredom. When there are no interesting cases to engage my mind. Look at this. An urgent appeal to find some missing midgets.
Did you say midget?
Six of them. The tumbling piccolos, an acrobatic act with some circus.
Disappeared between London and Bristol. Well, don't you find that intriguing?
Extreme?
Eh bien, cette passion Sherlock Holmes m'est née en mettant le nez dans un vieux document, un vieux manuscrit poussiéreux du Moyen-Âge, à l'époque où j'étais étudiant en histoire. Et après avoir réussi à le déchiffrer, un de mes camarades m'a dit « Tiens, tu utilises les mêmes méthodes que Sherlock Holmes ». Donc j'ai été très surpris, je me suis dit « Quel est le rapport entre ce que je viens de faire en tant qu'historien et ce que faisait ce détective privé anglais ?» Ensuite, donc j'ai de nouveau ouvert les aventures de Sherlock Holmes que j'avais déjà lues quand j'étais collégien, mais comme c'était une lecture qui m'avait été imposée par ma professeure de français, j'avais trouvé ça un peu douteux et j'avais pas vraiment accroché à l'époque. Et là, donc dans Le Chien des Baskerville, effectivement, je suis tombé sur Sherlock Holmes en train de décrypter un manuscrit et ma foi, sa méthode était très proche de celle que j'avais utilisée. Ensuite, je suis devenu journaliste, je me suis spécialisé dans les enquêtes, et de nouveau, je suis retombé sur Sherlock Holmes. Les méthodes que j'utilisais ressemblaient aux siennes, c'est-à-dire que j'avais l'habitude, quand j'avais un document écrit entre les mains, avant de le lire, de le passer en transparence au-dessus d'une source de lumière pour voir s'il n'y avait pas des choses, et aujourd'hui encore... On trouve des informations importantes en étudiant l'objet sur lequel peut être imprimée une information. Et tout ça, ça m'a obligé à relire les aventures de Sherlock Holmes et de découvrir que j'avais un maître qui était Sherlock Holmes. Et depuis, j'essaye non pas de l'égaler, mais d'apprendre pour essayer de faire aussi bien que lui.
Je suis membre du club Sherlock Holmes de France. Je sais pas exactement combien de personnes ça comprend, parce que plus ça va, plus il y a de personnes qui s'y inscrivent. Donc ça change souvent le chiffre. Et on enquête sur Sherlock Holmes, on fait différentes choses sur lui. Par exemple, on essaie de lui restituer la Légion d'honneur qui lui a été attribuée dans une de ses aventures. Mais là, officiellement, on essaie de lui faire attribuer officiellement.
Dans quelle aventure ?
C'est le pince-nez en or, je crois. Je les ai pas tous lus, vu que je les ai pas tous... mais dès que j'en trouve un nouveau, je l'achète.
Bon, Sherlock Holmes, c'est le personnage de Conan Doyle. Il existe dans un nombre fini d'histoires. Ce nombre fini, ce corpus, comme on dit, vous l'appelez le canon. Pourquoi cette référence religieuse ?
Parce que on lui voue un culte, et c'est sans doute pour ça que nos amis anglo-saxons qui sont à l'origine de ce culte holmésien ont choisi de baptiser l'ensemble des 60 aventures de Sherlock Holmes le canon. Mais je suis obligé en tant qu'holmésien de vous reprendre sur un point de détail. Sherlock Holmes n'est pas un personnage créé par Conan Doyle, c'est quelqu'un de vivant dont les aventures ont été reprises par Conan Doyle. Elles ont été écrites par le Dr Watson et Conan Doyle a servi d'agent littéraire pour aider à la publication.
Alors c'est un nouveau mystère.
Nikolai, покажите ему скрипку.
Mr. Holmes, you know about fiddles.
Le texte sacré, le canon, comme on dit, par référence justement à la liturgie, le canon, c'est 4 romans et 56 nouvelles, toutes signées Conan Doyle. Par la suite, le fils d'Arthur Conan Doyle, Adrian Conan Doyle, a écrit avec John Dixon Carr une dizaine d'histoires, d'untold stories, d'histoires non racontées, sous le titre « Les exploits de Sherlock Holmes », qui font presque partie du canon. Et puis il y en a eu d'autres, il y a eu Alexis Le Caille en France, et il y a récemment Béatrice Nicodème qui a écrit Des filles à Sherlock Holmes.
Alors il y a les Japonais, mais... Danemark,
La France,
Chapeau d'eau et compagnie.
Alors la France, c'est les...
Les quincaillers de la Franco-Midland.
C'est-à-dire quand même une association d'escrocs. Si on se reporte au texte malaisien.
Non, enfin, on peut toujours dire ça, mais c'est une escroquerie, c'est autour d'une escroquerie.
Ouais.
Alors on peut toujours dire que c'est une association d'escrocs, mais en fait c'est pas vrai. Dans l'histoire officielle, dans le canon, ce n'est pas des histoires d'escrocs.
Alors Jean-Pierre Cagnard, il est dessinateur, il a un projet à long terme autour de Sherlock Holmes, et puis il est aussi le membre de plusieurs associations dans le monde. Alors ça, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de... savoir où vous avez mis les pieds pour rencontrer des Holmésiens comme vous.
Ah ben, j'ai mis les pieds un peu partout, en Angleterre, aux États-Unis, au Japon, en Suisse. D'abord aux États-Unis, j'ai été sur la côte ouest, j'ai rencontré des associations à San Francisco au cours d'un banquet qu'ils avaient fait en mon honneur au dernier étage d'un immeuble d'un gratte-ciel où est reconstitué également l'appartement de Sherlock Holmes dans le moindre détail, ça fait 100 mètres carrés sur la baie de San Francisco. Alors eux là-bas, ce sont leur nom et c'est les Molly Maguire, ou en général ceux de San Francisco sont comme chaque association a le nom, un nom qui est issu d'un épisode d'une nouvelle de Sherlock Holmes. Alors, donc j'ai rencontré les Molly Maguire. Et les personnes slippers. Les personnes slippers, c'est la pantoufle persane qui sert à Sherlock Holmes pour mettre son tabac et qui est accroché sur la cheminée.
Quand un Holmésien rencontre un autre Holmésien, bon, il se raconte des histoires autour de Sherlock Holmes. Mais comment vous êtes habillé ? Est-ce qu'il y a certaines conventions qu'on doit respecter ?
Alors, en général, pas toujours, les gens sont habillés en habit victorien. Là, je reviens de Montpellier où j'étais au pèlerinage de la Société holmésienne de Londres, la vénérable Société de Londres. Ils étaient tous en habit victorien depuis le début, pendant 10 jours, tout le temps. Alors, ça fait des choses bizarres parce qu'il y a quand même le cardinal Tosca. Vous savez qu'il y a un endroit dans Sherlock Holmes où il dit « J'allais à la demande du pape enquêter sur l'étrange mort du cardinal Tosca ». C'est tout, c'est une demi-phrase. Et donc, il y a un cardinal Tosca dans le pèlerinage. Il y avait un cardinal Tosca, je connais. Alors, tout en rouge, comme ça. Alors, il bénit les gens à la gare, à l'aéroport. Ça, il y a aussi, comme il y a un empereur ou un roi, il y a des gens assez spectaculaires. On voit, il y a aussi le chien des Baskerville qui se promène. Il y a un anarchiste avec une bombe. Il y a l'éleveur de canaris. Il y a le cycliste solitaire avec une grande barbe. Moi, j'ai été une fois, il y a 3 ans, j'ai été à Reichenbach, parce que là, c'était en Suisse, aussi un pèlerinage de la Société Sherlock Holmes de Londres. Moi, j'étais en Horace Vernet, parce qu'un des ancêtres de Sherlock Holmes serait Horace Vernet. Donc, j'étais en Horace Vernet, ce qui faisait en fait un habit décalé, puisque j'avais 40 ans de moins que les autres. J'étais 1840, eux sont en 1890.
Et pourquoi précisément aller à Reichenbach ?
Reichenbach, c'est l'endroit où est mort Sherlock Holmes en se battant avec le professeur Moriarty, son ennemi juré. Donc, il y a les chutes de Reichenbach qui sont à côté de Meiringen en Suisse. Et là, c'est le grand pèlerinage des sociétés.
Est-ce que Sherlock Holmes est mort ? Est-ce que vous acceptez, par exemple, qu'il y ait des prolongations à ce corpus, à ce canon, à cet ensemble d'œuvres ? Aujourd'hui, on voit sous la plume d'autres Conan Doyle donc, apparaître Sherlock Holmes. Est-ce que ce sont encore des Sherlock Holmes légitimes ?
Tout à fait. Bon, à chaque fois qu'est publié ce qu'on appelle un pastiche, mais qui en fait est un élément de plus à la biographie de Sherlock Holmes. Bon, les sociétés holmésiennes du monde font des études pour vérifier si ce ne sont pas des faux, mais fréquemment on a des ouvrages. Bon, en France, un des maîtres est notre camarade Réouvin qui retrouve à force de recherche des événements qui n'ont pas été relatés par le Dr Watson mais qui sont tout à fait véridiques sur la vie de Sherlock Holmes. Et pour ce qui est de la vie de Sherlock Holmes, il y a deux écoles dans le monde. Il y a celle défendue par les clubs européens, menée par les clubs anglais, qui disent que Sherlock Holmes, malheureusement, a fini par décéder. Il est né en 1854 et a atteint l'âge de 100 ans, mais a fini par décéder en 1954. Dans le Sussex, où il a pris sa retraite et où il passait ses derniers jours à élever des abeilles. Mais on a face à ça l'école américaine, les Américains qui ne sont pas des Holmésiens sont des Sherlockiens, c'est une petite différence de terminologie, qui eux disent qu'en 1892 et 1893, lors de ce qu'on appelle le grand hiatus, c'est-à-dire de la disparition de Sherlock Holmes, au cours d'un voyage au Tibet, Sherlock Holmes aurait trouvé un élixir de jouvence qui lui permettrait de vivre plus longtemps qu'un homme normal et qu'il serait encore en vie, donc quelque part dans le monde. Bon, en France, nous pensons qu'il est malheureusement décédé et pour preuve, nous a même retrouvé au cimetière du Père-Lachaise, sa tombe marquée des initiales SH.
Disons que, en ce qui me concerne, ce qui m'a surtout fasciné dans les nouvelles et les romans de Conan Doyle, ce sont les affaires qui ont été évoquées par Watson, mais qu'il n'a jamais racontées, parce que ça me paraissait être des affaires les plus insolites, les plus curieuses et les plus difficiles à résoudre.
quelqu'un qui est un peu iconoclaste. Vous touchez au texte.
Je crois que les religions doivent évoluer et se mettre au diapason des grands courants du temps. Donc je touche... En fait, je ne touche pas au texte, parce que dans les affaires que j'ai traitées, les affaires non dites, les untold stories évoquées par Watson, mais qu'il n'a jamais racontées, je n'ai jamais touché un iota aux données qui ont été fournies par Watson. Lorsqu'il dit, lorsqu'il évoque l'affaire d'Isadora Persano, le fameux journaliste et duelliste trouvé fou un matin devant une boîte d'allumettes qui contenait un verre inconnu de la science, Watson n'a jamais a dit ça, mais il n'a jamais raconté l'histoire. Bon, alors moi je l'ai raconté parce que j'avais été tellement fasciné par cette accumulation d'invraisemblances que je me suis dit que ça valait le coup d'être traité. Mais je n'ai pas touché. Alors Isadora Persano, d'abord il s'appelle vraiment Isadora, ce qui est un prénom féminin, il faut l'expliquer, et il est bien journaliste et duelliste à la fois, ce qui à la fin du 19e siècle était quand même assez courant, puisqu'on se battait assez souvent en duel à la suite d'articles de presse. Et le verre inconnu de la science, effectivement, il était inconnu à cette époque. Il ne l'est plus maintenant, parce qu'on s'est aperçu que ce n'était pas un verre, en fait, c'était le virus de la rage.
Alors Sherlock Holmes, pour François Rivière, c'est une lecture ancienne ?
Oh bah oui, une lecture de prime jeunesse, si je peux dire, je sais pas, la première otite, la première grippe un peu sérieuse m'a donné envie d'aller frapper à la porte du 221B Baker Street. Et je pense justement pour faire un lien avec Robinson, qui est comme Sherlock, qui est un grand mythe de la fiction anglo-saxonne, ça a donné envie aux gens de concrétiser ça, non seulement de les multiplier, effectivement, je pense qu'on a écrit plus d'enquêtes de Sherlock Holmes apocryphes que Conan Doyle en a lui-même publié, et c'est quelque chose que les gens ont envie de palper littéralement. Il y a eu une bagarre récemment pour savoir où se trouvait justement dans Baker Street le 221B, alors que tout le monde sait qu'à Londres, les plaques de rue sont totalement, les numéros des maisons sont totalement anarchiques. Il y a quelque chose de fascinant. Moi, quand j'étais petit, justement, il fallait que Sherlock Holmes existe pour moi physiquement. Non pas que j'imagine qu'il existe dans un pays proche du mien, que j'imagine qu'il puisse venir lui-même me voir, mais j'avais envie de le voir exister graphiquement. Enfin, il fallait qu'il y ait une espèce de... Je me faisais une petite mythologie enfantine à partir de quelque chose qui avait déjà été exploré par des tas de gens entre Conan Doyle et moi, si je puis dire. Mais il fallait que je me l'invente. J'avais envie d'avoir mon Sherlock Holmes. Je pense que c'est le cas des grands héros de fiction, enfin en tout cas de ceux qui fascinent. Quand je dis grands, d'ailleurs, c'est, je pense à des tout petits héros de mauvaise littérature qui peuvent devenir très grands quand on commence à les investir, quand on commence à les utiliser. Quand on est enfant, on est Watson, parce qu'évidemment, on peut pas être Sherlock Holmes, mais on l'accompagne partout. On a envie que sa vie quotidienne devienne quelque chose d'extrêmement, je dis bien, concret, c'est-à-dire qu'on a envie de savoir ce qu'il fait à tous les moments de la journée et de la nuit. On a envie de savoir, et là où Conan Doyle a été absolument génial, c'est justement de donner énormément de précision sur la vie quotidienne de son héros, d'en faire à la fois une espèce de chevalier des temps modernes, enfin d'une science nouvelle qui était la détection, et en faire quelqu'un au fond de très routinier, d'extrêmement palpable.
Il se servait d'un masque pour rendre le chien plus terrifiant. Il l'affamait pendant des semaines, le gardait dans la mine jusqu'à ce que vienne le moment. Puis il lui faisait flairer un objet appartenant à la victime. Cette chaussure vous appartenait bien, Sir Henry.
Il faut ramener Sir Henry au manoir de Baskerville, Holmes. Avez-vous votre cape? Voulez-vous la lui prêter?
Malédiction a réclamé sa dernière victime.
Oui. Jamais plus vous n'entendrez parler du chien des Baskerville.
Alors, il y a quelque chose d'intéressant et curieux, c'est que vous dites que Conan Doyle n'est pas l'auteur ou le créateur du personnage, c'est finalement Sherlock Holmes qui se pense en lui. Et ça correspond exactement à la définition ou à la spécificité du mythe selon Lévi-Strauss. Lévi-Strauss dit « les mythes sont autonomes, ils se pensent entre eux dans les hommes ». Donc c'est bien, on a bien affaire à un être mythique.
Tout à fait, je crois que si on prend la définition de ce que peut être un être mythique, elle sera confirmée à chaque fois par Sherlock Holmes. Si vous allez aujourd'hui en Chine, par exemple, et si vous montrez la silhouette de Sherlock Holmes, il ne fait aucun doute que vous trouverez des gens qui vous diront « c'est Sherlock Holmes, c'est un détective privé anglais ». Bon, et certains vous diront qu'il vit encore, mais en tout cas, en aucun doute, on vous dira qu'il n'a jamais existé. Et pour preuve, il suffit d'aller au 221 B Baker Street à Londres et d'aller relever le courrier journalier qui arrive. Il y a du monde entier, tous les jours, des lettres de gens qui demandent encore les services du plus grand détective que la Terre ait connu.
Bon, comme vous, vous êtes l'un des fondateurs des quincaillers, vous connaissez un peu l'origine des membres qui sont là. Est-ce que ce sont des excentriques ou est-ce que vous avez de tout, vraiment ?
Alors, je serais tenté de dire que, heureusement, ce sont des excentriques et nous avons effectivement de tout. Le seul point commun que j'ai pu déterminer pour les 350 membres que nous avons actuellement, c'est cette quête de l'investigation, ce goût de la recherche des énigmes que l'on retrouve dans différentes professions. Donc on a beaucoup de journalistes, enquêteurs dans la société, on a des chercheurs, beaucoup de personnes du CNRS, des universitaires, des historiens, des archéologues, on va avoir des policiers, des gendarmes, des criminologues, on a aussi des médecins qui sont peut-être plus attirés par le Dr Watson, mais qui pratiquent des recherches aussi et qui utilisent les méthodes de Sherlock Holmes, plus quelques enseignants, des linguistes ou des latinistes qui travaillent sur des documents anciens.
C'est un esprit scientifique et j'aime bien parce que, comme Freud d'ailleurs, il a cette idée que l'univers est à lire, il est codé et qu'il est à déchiffrer. Je trouvais génial l'idée de la solution à 8%, à 8,5%, ou à 6,5%, je crois que c'est 8,5%, où la rencontre de Sherlock Holmes et de Freud. Parce qu'il y a un côté Conan Doyle dans Freud, quand je parle des livres de vulgarisation. Et il y a un côté Freud chez Sherlock Holmes qui ne laisserait pas passer un lapsus.
Tout est bon donc, tout est signe. On vit dans une grande métaphore.
Oui, moi je rêvais de faire un Don Quichotte et Watson en pensant. Oui, parce que Don Quichotte étant dingue. Watson, le médecin qui lui est attaché, ça serait assez logique. Mais on pourrait imaginer aussi le contraire, c'est-à-dire ouais, l'autre.
Enfin, c'est élémentaire, mon cher Sancho. Mm-hmm. C'est pas facile à prononcer.
Hein. C'est élémentaire, mon cher Sancho.
Ah, très bien.
Il y a un nombre de Sherlock Holmes écrits par d'autres que Conan Doyle, et ça continue, il y en a quand même pas mal. Ça se compte par centaines, je crois. Il y en a eu un que j'aimais beaucoup, c'est Sherlock Holmes, qui est un acteur assez nul, et c'est Watson qui est génial. Et il prend comme il veut pas, par rapport à la cité de l'époque, par rapport à sa position de médecin, il veut pas se mêler de crime, donc c'est l'acteur qui joue le détective génial, qui lui est nul. Et il y en a un très beau aussi, c'est celui de Billy Wilder, qui est, à mon avis, le plus juste sur Sherlock Holmes, c'est qu'il rend justice, parce qu'il ne le montre pas comme un imbécile. D'ailleurs, faisant quelques allusions à une possible homosexualité de Sherlock Holmes. Je ne partage pas spécialement.
Dans Les Aventures de Sherlock Holmes, qui est son troisième livre, mais qui sont cette fois des nouvelles, nous avons un scandale en Bohême. Et là, pour une fois, Conan Doyle prend à bras le corps, non la femme, mais le problème de la femme, puisqu'il fait rencontrer à Sherlock Holmes Irène Adler, qui pour lui sera désormais la femme. Et c'est assez symptomatique qu'à la fin, qu'il ne réclame pour tout paiement de son action qu'un portrait d'Irène Adler. Donc on laisse entendre que Sherlock Holmes, si désormais il ne va plus s'intéresser aux femmes, c'est parce qu'il a eu un grand amour déçu, mais malheureux, disons plutôt, puisque Irène Adler a épousé quelqu'un d'autre, et il ne s'en est jamais remis. C'est peut-être la cause profonde de sa misogynie.
Il y a de nombreux chercheurs américains du club des Baker Street Irregulars auquel avaient adhéré le président Roosevelt et Winston Churchill qui ont fait des études et qui imaginent que le docteur Watson aurait pu être une femme. Il y a une étude très, très sérieuse qui a été faite sur le vocabulaire utilisé par le docteur Watson qui, les linguistes disent que ça pourrait être un vocabulaire typiquement féminin. Mais un intérêt de Sherlock Holmes pour les jeunes filles, ça me paraît faux. Là, c'est une parodie inexacte.
Et cette expression, c'est élémentaire, mon cher Watson.
Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est uncanonical, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qui n'est pas canonique, qui n'a pas sa place dans le canon. C'est-à-dire que très peu de fois Sherlock Holmes dit à Watson qu'un événement, une déduction est élémentaire, mais il n'enchaîne pas avec mon cher Watson. Et en revanche, le mon cher Watson intervient souvent. Mais élémentaire, mon cher Watson, ce n'est pas canonique. En revanche, au cinéma, effectivement, bon, il y a de nombreux films où Sherlock Holmes n'arrête pas de dire élémentaire, mon cher Watson, ce qui finit par nous agacer.
Alors elle est noire, laquée, préculottée électriquement à l'intérieur. Ils appellent ça E-B-O-N-Y. L'ébony. Alors, ça fait toujours partie des pipes de Sherlock Holmes. Quoi.
Alors, je vais vous montrer autre chose.
Ça, c'est la première qui est sortie. Alors là, on appelle la calebasse. Et sur beaucoup de photos, beaucoup de documents, vous voyez Sherlock Holmes avec cette pipe-là. C'est une courge des Indes, c'est une sorte de melon. Et au-dessus, vous voyez, ça c'est un foyer en écume. Alors c'est très bon à fumer, très agréable. Mais c'est la pipe avec laquelle on le voit le plus.
Elle est un peu coloniale.
Oui, c'est ça. Mais on le voit souvent avec sa fameuse casquette. Et puis cette pipe-là à la bouche. Alors elle existe en Bruyère, je vais vous la montrer. Là, c'est une grosse, mais on l'a en moyenne et en petit. Et ça s'achète beaucoup pour des cadeaux, pour des choses.
C'est une pipe comme les...
J'ai lu Études en rouge, Les aventures de Sherlock Holmes, Résurrection de Sherlock Holmes, La vallée de la peur, Le chien des Baxterville et Archives sur Sherlock Holmes. Et aussi Souvenirs de Sherlock Holmes. J'ai pas lu... Les exploits de Sherlock Holmes et c'est tout.
Et toi, tu crois en Sherlock Holmes ?
Oui. Oui, je crois en Sherlock Holmes.
Quand tu dis ça, ça te fait penser à rien ? Quand tu dis oui, je crois en Sherlock Holmes ?
Ça fait un peu comme une religion. Ça, c'est un peu comme si c'était notre Dieu et qu'on l'honorait. Qu'on l'adorait.
Bien, le mythe de Sherlock Holmes a pris de telles proportions qu'il en est presque devenu une religion. Une religion avec ses intégristes et ses réformistes. Par exemple, à propos de l'affaire du grand hiatus où il a disparu pendant 3 ans, Holmes raconte qu'il a rencontré le calife de Khartoum, qu'il est allé dans l'Himalaya, où peut-être il aurait vu le Yéti, enfin qu'il a rencontré plein de gens. Mais alors, pour les intégristes, ces paroles d'évangile, si j'ose dire, il n'y a pas de problème, il a bien fait ça. Puis il y a les réformistes dont je suis, je pense que Sherlock Holmes, qui était partisan de l'humour à froid, a raconté à ce malheureux Watson pas mal de craques. Et qu'en fait, il était tout à fait ailleurs. Il a bien dit, à un moment donné, qu'il était à Montpellier pour étudier les résidus des goudrons de houille. Je pense qu'à une époque où la criminalité battait son plein, qu'elle soit d'origine de droit commun ou d'origine politique, puisque c'était le temps des attentats anarchistes, il avait quand même autre chose à faire qu'étudier les goudrons de houille, sauf peut-être pour voir comment on obtenait la créosote qui fournissait les marmites à renversement des anarchistes.
Vous me dites qu'il y a un culte autour de Sherlock Holmes, une sorte de secte des saintes. Alors j'imagine que dans les sectes, il y a aussi des Watsoniens et il y a aussi des Moriartistes. Est-ce qu'il y a des Moriartistes, c'est-à-dire des gens qui ont le culte du diable, enfin de celui qui est l'ennemi définitif, historique de Sherlock Holmes ?
Je pense que, comme dans toute religion, le bien et le mal, le blanc et le noir sont que les mêmes faces du même personnage. Parce que si vous regardez bien, si vous analysez bien le portrait que, d'abord, dans un premier temps, Conan Doyle a fait de Sherlock Holmes, et ensuite le portrait que, dans le dernier problème, il trace de Moriarty, vous trouverez une ressemblance physique tout à fait étonnante. Non seulement physique, mais intellectuel, puisque de même que Moriarty est le Napoléon du crime, et Sherlock Holmes, disons, pour entrer dans l'optique anglaise, le Wellington du crime, ils sont tous les deux des esprits très très brillants. Moriarty a fait un binôme qui est de rester célèbre, il a parlé d'un astéroïde qui a renversé les bases de l'astronomie, c'est donc quelqu'un, un adversaire à sa mesure, et on se demande jusqu'à quel point, justement, Conan Doyle ne s'est pas laissé influencer par un livre qui paraissait à peu près à la même époque, qui s'appelait Le Docteur Jekyll et Mr. Hyde, si Sherlock Holmes et Moriarty ne sont pas le même personnage vu sous des angles différents. Il y a ici un jeu de miroir qui se développe à l'infini.
Et cependant, Moriarty pousse Sherlock Holmes dans un ravin.
Il le pousse dans un ravin, effectivement, mais ça s'est fait d'une façon tellement inopinée qu'on se demande, parce que Moriarty, on ne connaissait pas. Hein. Tout d'un coup, dans une nouvelle, la dernière de le dernier problème, Conan Doyle, poussé par le par l'agacement, décide qu'il en a marre de Sherlock Holmes. Alors il lui invente un adversaire à sa mesure. On dit tout d'un coup de lui que c'est le Napoléon du crime qui gouverne la paix, mais jusqu'à présent, Sherlock Holmes n'avait pas l'air de s'en être douté. Donc ça paraît un petit peu, disons que le personnage de Moriarty apparaît un petit peu comme un deus ex machina forgé pour la circonstance.
Alors ensuite, nous avons donc la société anglaise. Enfin, il y a encore d'autres choses. Il y a une autre société dont je voudrais parler, qui est amusante, c'est les trois frères de Moriarty, qui est une société en Arizona, qui a été constituée par John Maynard Watson, qui est le pape des Sherlock Holmes du monde entier, qui est la plus grosse société, la plus grosse collection de livres, d'items, etc., qui habite à Santa Fe, qui reçoit des visiteurs du monde entier. Puis Santa Fe, il faut quand même y aller. Il a donc fondé les trois frères de Moriarty, parce qu'il y a un petit village, un croisement au Nouveau-Mexique qui s'appelle Moriarty. Alors tout le monde va là, ça vient de El Paso, là, et ils vont chaque année pour célébrer le non-anniversaire de ce bâtard de Moriarty.
Bon, bon, j'imagine que vous y êtes allé aussi et que vous avez été à ce carrefour.
Oui, oui, j'avoue que j'étais très ému. Je me suis pris en photo devant la pancarte Moriarty, et je l'ai ramené. D'ailleurs, j'ai été dans plusieurs journaux holmésiens avec moi et cette. Et alors, je pensais que c'était quelque chose de. C'est quand même. C'est pas dans le désert. C'est pas le désert à cet endroit-là, au Nouveau-Mexique. Mais bon, enfin, il y a 30 maisons. C'est un carrefour. Et chaque année, à la même époque, ils voient arriver des gens habillés en victorien. Les Américains, ils savent pas ce que c'est. Qui vont dans le saloon. Petit saloon local, Dream, et qui chante. C'est très bizarre, c'est très curieux. Alors, le Japon, c'est encore différent, parce que il faut voir que la société anglaise a un humour, disons, c'est l'humour humour anglais, une certaine retenue, tout ça. Les Américains sont franchement plutôt cinglés. Enfin, ils vont au bout des choses et de la démesure. Et les Japonais, ils sont plus japonais. C'est très formel. J'ai été au mois de mars, au 30e anniversaire du club japonais, enfin du principal club. Il y a trois clubs. C'est le Japan Sherlock Holmes Club. C'était le 30e anniversaire avec le docteur Kobayashi, qui est une sommité au Japon. Mais en fait, on a eu des communications. C'était dans un immeuble. C'était pas les familles des gens étaient là. C'était très, ils étaient bien sages. Enfin, c'est un truc. Mais j'ai rencontré quand même un moine bouddhiste qui fait partie de ça et qui va faire partie du club des clubs français, que j'ai invité à faire partie des clubs français. Et ils sont assez nombreux, ils sont 1000 ou plus que ça. Mais c'est aussi parce qu'ils sont calqués un peu sur les valeurs victoriennes qu'ils peuvent avoir. Ils expliquent ça comme ça. Il y a aussi donc il y a ce grand club, il y en a deux autres, dont un qui s'appelle le Black-Headed League, parce que en fait il y a une histoire qui s'appelle la ligue, l'affaire de la ligue des rouquins, c'est-à-dire the Red-Headed League. Donc comme il n'y a pas de roux, bien qu'il y a des roux finalement au Japon, comme ils ont les cheveux noirs, ils s'appellent le Black-Headed League. Curieux.
Ça, Aurélien a toujours adoré se déguiser depuis qu'il a un an et demi. Il a toujours endossé des défroques très, très différentes, à tel point qu'à l'école maternelle, il est entré à l'école maternelle, il avait 2 ans et demi. Et si un jour il était un personnage, il était Lucky Luke par exemple, eh bien il ne répondait qu'à ce nom. C'est-à-dire que la maîtresse, si elle l'appelait Aurélien, il faisait la sourde oreille et il ne répondait que si elle l'appelait Lucky Luke. Mais le lendemain, il pouvait être Robin des Bois ou tel autre héros. Et il a toujours adoré ça. Et c'est vraiment une caractéristique, parce que par rapport aux deux autres enfants, ils n'ont pas du tout cet amour du déguisement qu'a Aurélien. Et c'est vrai qu'il aime bien endosser la robe de chambre et mettre le chapeau de Sherlock Holmes.
Et ça ne vous inquiète pas un peu d'être la mère d'un Dr Jekyll et Mr Hyde?
Non, je trouve que c'est bien l'imagination, le rêve. Je trouve que chacun d'entre nous a envie aussi de vivre sous différentes peaux et envie de. Bon, c'est une manière de se créer différentes personnalités. Bon, les acteurs, finalement, ils ne font que ça. Hein. Bon, bah, après tout, on peut très bien être acteur dans notre vie quotidienne et bon, sans tourner de film ni jouer au théâtre. Bon, notre propre vie quotidienne peut être aussi riche et pourquoi pas.
Donc notre société est la Franco-Midland. Et donc il y a les comiques quincaillers, il y a les quincaillers, puis il y a les autres. Puis donc moi je suis comique quincaillé et j'ai reçu ce certificat quand j'ai adhéré au club.
Mmh. Et on reste combien de temps comique quincaillé avant de devenir quincaillé?
On peut y adhérer quand on veut, il suffit d'avoir les connaissances holmésiennes suffisantes Et il pose différentes questions sur Sherlock Holmes, sur les motivations, sur tout. La société Sherlock Holmes de France, les quincaillers de la Franco-Midland. Certificat de commis quincaillers. Monsieur Aurélien Guédamour est admis en qualité de commis quincaillers dans la société Sherlock Holmes de France, les quincaillers de la Franco-Midland, société à... Bon, société qui regroupe 134 succursales dans les villes et villages de France, sans compter une à Bruxelles et une à Saint-Rémy depuis le 27-1-93. Il est en droit de présenter dès lors sa demande de promotion au rang de quincaillier en titre auprès du Grand Dépôt de Paris où le conseil d'administration statuera en tenant compte de ses qualités holmésiennes dont il aura su faire preuve. Il y a la signature de Yves-Charles Faircock. C'est mon parrain, c'est mon parrain.
On a besoin d'une concentration quand on est enfant et qu'on lit Sherlock Holmes. Il faut vraiment se concentrer sur un texte qui est assez court, parce que ce sont des nouvelles, pour suivre vraiment de manière extrêmement précise, sans rien rater, le déroulement de l'intrigue. On est complètement mystifié, mais on a peur aussi. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui font que c'est de la littérature intimiste, d'une certaine manière. Le Londres, le labyrinthe des rues de Londres qu'emprunte le cab loué par Sherlock Holmes, et même la campagne anglaise qu'on devine toujours à travers des brumes, carrément dans la nuit, et qui est très inquiétante, c'est quelque chose qui, effectivement, ne sort pas de la chambre. Enfin, on est avec ça, on suit pas à pas la déduction du détective, mais c'est pas du tout, c'est pas la grande évasion, quoi. C'est vraiment quelque chose où, au contraire, même on rentre un peu à l'intérieur de soi et on écoute ce qui se passe. Enfin, on est très attentif, en tout cas.
Pour moi, le mythe, s'il y a un mythe, si est-ce qu'on représente Sherlock Holmes, c'est celui qui, arrivant après, sait ce qui s'est passé. C'est celui à qui on veut dissimuler des choses, mais on n'y arrive pas. C'est celui qui trouve les chevaux, dans les chevaux compliqués des mensonges et des apparences, trouve la vérité. Et pour moi, c'est ça, Sherlock Holmes.
Sauf que si on y regarde de près, il ne procède pas par déduction, ni par induction, mais... L'intrigue présuppose qu'il sait déjà ce qu'il va trouver.
Ah non, il a, je ne suis pas d'accord.
Non.
Sa méthode est déductive, il insiste très souvent. Et moi, je crois qu'il faut quand même écouter ce que disent les auteurs. Par exemple, Cervantes se donne un mal de chien pour répéter, mais un nombre de fois énorme, que Don Quichotte est fou. Et il y a toujours des imbéciles qui arrivent et disent « Oh, il n'est pas fou ». Non, l'auteur dit qu'il est fou. C'est ce qui est d'ailleurs fait la chose formidable pour moi de Don Quichotte, c'est qu'il prend comme emblème de l'humanité un fou. On pourrait bâtir une religion dessus. Bon, et pour Conan Doyle, Sherlock Holmes a une méthode déductive, mais il a aussi beaucoup d'intuition, il est hypersensible, et en même temps, il est aussi comédien, parce qu'il se... Pour avoir des renseignements, il ne se contente pas de rester à la maison ou d'avoir sa loupe, qui est devenue un truc. C'est qu'il se déguise et qu'il est extraordinaire dans le déguisement. Donc, il paye sa personne, il va sur place, il se fait engager. Il est capable aussi de prendre des apparences et de changer pour aller chercher l'information là où elle est. Non, je ne crois pas qu'il a une... qu'il sait. Je ne crois pas qu'il est omniscient. Je ne crois pas qu'il a une... que la vérité, il l'a au départ et qu'ensuite, il la confirme. Je pense que c'est une attitude purement scientifique. Non, il a écrit un livre sur les différentes cendres de cigarettes. Il est un scientifique. Et un scientifique... Non, c'est plutôt un type qui a... Et c'est là qu'il est très, très, à mon avis, actuel... C'est qu'il a il combat le mal du siècle, il combat l'ennui. Le mal de son siècle, quoi. Aujourd'hui, on s'ennuie pas, on a la télé.
étonnants sont étrangers. Ce sont des... C'est vrai parce que l'holmésologie est beaucoup plus ancienne dans les pays anglo-saxons. Les premiers clubs ont vu le jour officiellement en 1934 à New York et quelques mois plus tard à Londres. Et là, on a affaire à des personnes qui sont aujourd'hui très âgées, mais qui ont voué leur vie à Sherlock Holmes. Et dernièrement, en France, une partie de ces personnes sont venues en pèlerinage dans le sud-ouest. Et là, on a pu voir, par exemple, un Anglais âgé de 84 ans qui tient le rôle dans les reconstitutions d'un cardinal qui apparaît dans les aventures de Sherlock Holmes, qui est le cardinal Tosca, et qui se promène donc, quand il est en réunion Sherlock Holmes, en tenue de cardinal. Et à 84 ans, je pense que l'amour pour Sherlock Holmes lui permet de vivre comme un jeune homme. Il se permet de tout faire. Là, à Montpellier, on l'a vu se baigner par un froid de canard en tenue de bain victorienne. Et quand il prend par exemple l'avion dans un aéroport, toujours en costume de cardinal, il n'est pas rare de voir quelques religieuses ou autres ecclésiastiques venir lui demander une bénédiction, ce qu'il fait comme s'il tient son rôle en public. Et ça, c'est un exemple de personnage assez étonnant. En France, on peut parler de Yves-Charles Fercoq, qui est un dessinateur de dessins animés, qui a quand même passé 7 ans de sa vie à reconstituer en miniature l'appartement de Sherlock Holmes avec tous les objets qui apparaissent dans les aventures. C'est un travail de titan pour une réalisation minuscule. Et on trouve comme ça des gens qui vivent chez eux dans des intérieurs reconstitués qui ressemblent à l'appartement de Sherlock Holmes, et qui même passent une partie de leur vie dans les vêtements de Sherlock Holmes. Si nous nous réunissons en costume victorien, ce n'est pas pour se déguiser, c'est pour avoir les costumes, et on est dans la peau des personnages. On fait nos réunions dans des lieux qui sont contemporains de Sherlock Holmes pour être dans cette ambiance, et avec le secret espoir peut-être de franchir une barrière temporelle et de nous retrouver à l'époque où Sherlock Holmes vivait et d'être un jour en face de lui. Donc je sais que toutes les fois que je passe à Baker Street, si je peux y passer la nuit, il suffit de fermer les yeux et des fois l'imagination fait le reste.
Alors tu rêves des fois d'Holmes ?
Non. Je sais qu'il a essayé souvent de parler avec des esprits, mais il n'a pas encore essayé de rentrer en contact avec moi.
T'attends ?
Ah bah oui, pourquoi pas.
Qu'est-ce que tu lui dirais ?
Je lui demanderais son nom pour être bien sûr déjà que c'est lui, et puis je lui demanderais comment il a eu l'idée d'inventer Sherlock Holmes. Et pourquoi ?
Vous-même, vous vous habillez en Sherlock Holmes, c'est pas un peu présomptueux ?
Tout à fait. Donc là, c'est pour les besoins de la société. Dans chaque société, il y a une personne qui doit tenir le rôle de Sherlock Holmes lors des réunions en costume. Bon, il se trouve, et j'en suis très fier, que pour la société française, c'est moi qui ai cet insigne honneur. Mais ça ne veut pas dire que je me prends pour Sherlock Holmes quand je n'aurai pas le toupet d'imaginer que j'ai ces qualités, mais je suis en fait simplement là pour le symboliser, et c'est une façon de lui rendre hommage. Et dans chaque club étranger, il y a quelqu'un, un membre qui tient le rôle de Sherlock Holmes.
Mais en devenant une institution, est-ce que vous n'allez pas perdre le sens de l'humour ?
Ah ben j'espère bien que non.
So soon, and isn't this a crime? We know by now the time knows how to fly. So here's goodbye, so soon you'll find your separate way. If time's so short, I'll say so long and go. So soon, goodbye.
Et moi, je l'imagine plutôt ayant passé une nuit de débauche avec des clochards et des drogués dans une poubelle. Alors, entre deux picouzes, il a un petit chapeau un peu défoncé quand même. C'est la fin du mythe.
Le mythe cabossé.
Le mythe cabossé. Ouais. Le mythe poubelle. So soon, and isn't this a crime? We know by now the time knows how to fly. So here's goodbye. So soon, you'll find your separate way. With time so short, I'll say so long and go. So soon, goodbye.
On voyait mal Sherlock Holmes marié avec une rose. Mais par contre, l'orchidée, qui est certainement la forme la plus accomplie et, passez-moi le mot, la plus intelligente du monde végétal, ça collait bien, comme on dit, avec Sherlock Holmes. C'est une sorte d'expression d'intelligence suprême, car l'orchidée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en plus, cette orchidée, je peux même vous en donner l'appellation, puisque c'est un phalaenopsis, donc la fleur papillon, l'orchidée papillon, et qui sera forcément d'une couleur un peu mystérieuse, d'un rouge grenat, cramoisi, tirant sur le mauve. Enfin, une couleur parfaitement unique. Et il faut savoir, un peu vénéneuse d'ailleurs, parce que chez Sherlock, il y a aussi à un moment quelque chose de vénéneux. On sait qu'il a utilisé beaucoup de plantes médicinales et aromatiques. Je ne parle pas uniquement de l'opium, mais même une fois, il s'est traité les yeux pour les rendre plus brillants et pour paraître malade aux yeux de ceux à qui il voulait cacher la vérité. Il s'est traité les yeux avec un jus d'une certaine plante. Et disons que ça ne lui a pas porté chance ce jour-là.
Michel Lys, vous avez lu tout le canon, c'est-à-dire les 60 textes?
Alors, le canon ne se lit pas. Il se lit, se relit, se pratique, et c'est un peu comme la Bible. À chaque nouvelle lecture, on y découvre quelque chose. Alors, je ne suis pas un des détenteurs du canon, mais disons que c'est indispensable quand on est holmésien, et que comme moi, on y recherche cette correspondance entre Sherlock Holmes, la nature, les plantes. Et vous savez, il y a une description de jardin, en particulier dans le cordon de sonnette, le cordon padaché, qui est une chose extraordinaire. C'est d'une sûreté, d'une précision botanique. Là encore, on reconnaît le grand Sherlock Holmes.
Le vôtre Sherlock Holmes, comment il est?
Ben, le mien, il est... le problème, c'est-à-dire que le mien, il est avancé, tout est avancé, sauf la tête. Parce que... soit je reste vers cet archétype, soit je fais totalement autre chose, ce qui est possible aussi, parce que ce qui a été fait au cinéma il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire toute la série de La Granada qui a été faite avec un nouvel acteur, où là ils n'ont pas mis du tout, je reprends la casquette, la pive, machin, où ils l'ont habillé normalement. En fait, on a tout de suite, le public a tout de suite reconnu ce Sherlock Holmes-là, alors qu'il ne ressemblait pas du tout à ceux qui avaient été faits avant. Il partait loin de l'archétype. Bon, c'était pas un petit gros bedonnant avec la barbe, donc je n'ai pas encore la tête. Je pense que finalement, il faut que je recherche quelqu'un de vivant, quelqu'un que je connaisse, que je croise, dont je sentirais qu'il m'inspire pour cette tête, plutôt que d'essayer de faire une tête composite ou quelque chose que je tirerais complètement de mon cerveau. Faire quelque chose de neuf et en même temps que l'allure générale fasse qu'on puisse s'y référer.
Bon, pour ce qui est du stéréotype, l'avantage du stéréotype, c'est que même en ombre chinoise, on reconnaît Sherlock Holmes.
Oui, alors, cet aspect-là, ça c'est amusant, parce qu'en fait, il est connu dans le monde entier. Bon, c'est un mythe littéraire comme les autres, donc on le connaît, sa silhouette dans le monde entier. Mais les trois choses qu'on connaît de lui, c'est-à-dire, si quelqu'un ne connaît que trois choses, il le connaît son chapeau, sa pipe et élémentaire, mon cher Watson. Ça, c'est ce qui est connu le plus. Bien, ces trois choses-là sont fausses. Elles n'existent pas dans le canon. Les pipes, il n'a jamais cette pipe qui est une calebasse. Elle a été inventée par un acteur de théâtre qui ne pouvait pas parler avec une pipe droite dans la bouche. Donc, il a pris une pipe courbe. Sans ça, dans les livres, il a deux,
Il a plein d'autres pipes. Il fume la cigarette, la cigare. Mais quand on parle de ses pipes, il a deux pipes qui sont droites. Donc la pipe courbe n'existe pas. Le chapeau, lui, n'existe pas non plus. Il porte 50 chapeaux différents, et celui-là, entre autres. Mais il a été... C'est toujours le cinéma qui a pérennisé ça. Une fois que c'est passé au cinéma, c'est venu du théâtre, puis cinéma, et ça a pérennisé ça. Et on arrive à des aberrations, parce que, par exemple, la casquette à double pan, c'est une casquette de chasse ou de campagne. On le voit dans un film qui est Meurtre par décret, sortir de l'opéra de Covent Garden, donc en cape, en grand habit du soir, et avec cette casquette là-dessus. On ne l'aurait même pas laissé rentrer avec une casquette comme ça. Mais tous les gens avaient haute forme. Mais pour garder, il est comme ça. Et élémentaire, mon cher Holmes, qu'on dit toujours, c'est faux, ça n'existe nulle part. Nulle part, c'est cité. Alors, des fois, il y a c'est élémentaire, il y a ceci est simple, mon cher Watson, mais il n'y a jamais les deux à la fois, ça n'existe pas. Ça aussi, c'est arrivé par le théâtre et le cinéma. Mais ça n'est pas canonical. Alors, le violon, ben, le violon, en fait, il joue mal, le violon. Hein. Alors, des fois, on dit qu'il joue bien, mais en fait, il joue mal. Son violon est de Crémone. Parfois, il fait des différences, de longues digressions sur les Stradivarius et les Amati, qui sont des violons de Crémone. Et donc, c'est aussi la première chose qu'on voit de Sherlock Holmes, c'est-à-dire dans un film, quand il y a la nuit noire, la pluie, le brouillard, une rue, un pas de cheval, une fenêtre allumée. Jusque-là, c'est presque 90%. Et s'il y a un son de violon, c'est Sherlock Holmes. Et en 3 secondes, un film commence comme ça.
Au cours de notre filature, nous avons rencontré Jean-Pierre Cagnat, dessinateur, René Réhouvin, écrivain watsonien, Claude Klotz, alias Patrick Covin, Jacques Sellard et François Rivière, écrivains et journalistes, Aurélien Guénamour et sa mère, Marie Mercier, chapelière, Thierry Saint-Johannis, président de l'association Les Quincailliers de la Franco-Midlande, rédacteur en chef du catalogue de la Franco-Midlande, et Roland Port, artiste tout-terrain, ainsi que la patronne du Caïd, une boutique de pipes sur le boulevard Saint-Germain. Mythe. Où es-tu, mythe, que dis-tu ? Jean-Michel Coqui, Nathalie Fadeau, Anne-Pascal Desvignes et Jacques Meunier. Nuit magnétique, bonsoir.
C'était Nuit magnétique, mythe, où es-tu, mythe, que dis-tu, par Jacques Meunier,
Réalisation Anne-Pascale Desvignes. Première diffusion sur France Culture le 18 novembre 1993. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.